Je vous invite à prendre place puisque nous allons redémarrer pour essayer de rattraper. Enfin, ça c'est un peu illusoire, mais en tout cas de ne pas perdre trop de temps. Donc je vous invite à. Enfin, j'invite Pascal Lefebvre, qui donc est chercheur, qui enseigne au Lucas School of Arts à Bruxelles, ou à côté de Bruxelles en réalité, non, c'est à Bruxelles. Et qui nous a proposé, dans le cadre de cette journée, une conférence, une présentation sur intitulée « Fidélisation du lecteur ». Alors, le titre initial était un peu plus complet, puisque le titre était « Fidélisation du lecteur par sérialisation au cours du XXe siècle ». Je te laisse la parole, Pascal. Merci.
J'ai un nom français, mais je suis néerlandophone. Je m'excuse si j'utilise des expressions bizarres, parfois. Je vais essayer d'élargir un peu la perspective et de faire des comparaisons plus internationales concernant l'importance de la sérialisation dans la fidélisation du lecteur. La fidélisation du lecteur est une stratégie importante de chaque éditeur, parce que l'éditeur reste au fond un entrepreneur qui prend des risques financiers dans l'espérance de gagner beaucoup d'argent. L'impression d'un livre devient rentable au moment où on peut imprimer et vendre suffisamment d'exemplaires. Si l'éditeur ne sait pas vendre les exemplaires, il peut subir une perte d'investissement. Donc, il est crucial pour les produits de masse de trouver des consommateurs intéressés en grande quantité. En plus, il va de soi que, aussi pour les publications futures, un éditeur veut se garantir d'un lectorat suffisamment grand. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de garanties dans ce métier, mais les éditeurs pourront poursuivre quelques tactiques ou stratégies. On voit dans l'histoire de la bande dessinée que les éditeurs ont exploré, selon les contextes variés, différentes tactiques pour rendre leur public fidèle. Certaines tactiques, comme la publication sérielle, se sont prouvées efficaces et ils n'ont pas changé de fondamentalement depuis environ 130 ans. Je vais esquisser en grande ligne la pratique de l'édition en épisode dans la bande dessinée. Mais avant, je survole quelques autres tactiques pour tenir le consommateur fidèle ou intéressé pour le produit qu'on veut lui vendre. D'abord, un contact avec les consommateurs, les lecteurs, c'est important. Par exemple, plusieurs revues spécialisées BD avaient un rubrique de lettres, comme Jean-Philippe avait expliqué déjà. Le chercheur écossais Lawrence Grove a souligné l'importance de cette partie rédactionnelle dans le succès immense du journal de Mickey dans les années 30. Pour savoir quelle série était populaire chez les lecteurs des revues, certains éditeurs organisaient en plus de sondages. Le système de sondage le plus développé et intensif se trouve au Japon, où chaque semaine, les lecteurs sont invités à élire leur série préférée d'une revue. Certains éditeurs ont organisé au XXe siècle des clubs pour les fans d'une série ou d'une revue spécialisée. Pensons au Superman Club of America, qui avait 250 000 d'adhérents dans les années 40. Ou les Amis de Spirou, avec 80 000 d'adhérents à la fin des années 40. Le fan recevait un certificat de son adhérence, un PIN et une clé pour déchiffrer les messages secrets publiés dans les publications de Superman ou Spirou. Important dans ce contexte historique, l'adhérent était invité à se souscrire à une cote d'honneur. Parfois, les éditeurs organisaient des manifestations ou des attractions où les lecteurs pouvaient rencontrer des acteurs jouant les héros de bande dessinée. On connaît assez bien l'arrivée de Tintin à la gare du Nord de Bruxelles. On sait aussi qu'on puisse rencontrer les personnages comme Mickey et Minnie Mouse dans les parcs d'attractions de Disney. Au Japon, on a même organisé des funérailles quand un personnage fameux meurt dans un manga, comme Rikishi, un boxeur dans Ashita no Joe. 700 fans participaient à ses funérailles à Tokyo, ou plus récent, il y a 7 ans, les funérailles de Roa à Tokyo. De nos jours, les fans se déguisent comme leurs héros, le cosplay, et ils peuvent participer plus activement au monde fictif par des jeux électroniques et interactifs. Mais revenons à la bande dessinée même. parce que aussi dans la présentation, la livraison des épisodes, les éditeurs cherchaient à tenir leurs lecteurs fidèles. Même la narration des bandes dessinées ou l'écriture du scénario était impliquée dans la manière dont on publiait les histoires. Beaucoup des stratégies qui sont utilisées aujourd'hui ont leur racine au 19e siècle. C'était notamment dans le contexte historique de la révolution culturelle, de la révolution industrielle capitaliste, que les soi-disant industries culturelles se voient le jour. Des biens culturels étaient vus comme des produits marchands qu'on produise en grande quantité selon des processus standardisés. Grâce à l'alphabétisation croissante, plus de gens devenaient des consommateurs potentiels pour des éditeurs. Dans ce contexte est née l'idée du roman feuilleton et ça a eu un succès énorme. Vers la fin du 19e siècle, certains éditeurs utilisaient le même principe pour vendre la bande dessinée. Un exemple fameux d'Angleterre était Alice Loper. Après déjà une carrière dans une autre publication, plus de 15 ans, on lançait un hebdomadaire humoristique au nom de Alice Loper Half Holiday en 1884. L'idée d'un personnage dessiné qui revient dans chaque publication n'était pas encore répandue. Il fallait attendre le début du XXe siècle pour que les éditeurs vont capitaliser en masse cette approche d'une série autour d'un personnage ou quelques personnages centraux, comme par exemple les Katzer-Yamarkitz. La façon dont on publie des séries a changé beaucoup dans le temps, mais l'idée centrale de la publication sérielle a survécu. Au début du XXe siècle, la sérialisation se réalisait surtout dans la presse hebdomadaire ou journalière. Comme l'historien de la bande dessinée américaine Ian Gordon explique, la publication des comics faisait partie de la stratégie marketing des grands éditeurs de la presse américaine Pulitzer et Hearst. L'idée de publier chaque jour un strip autour d'un même personnage dans la presse quotidienne serait appliquée par les éditeurs d'autres pays plus tard. Aujourd'hui, cette manière de publier la bande dessinée n'est pas disparue, mais elle a perdu beaucoup d'intérêt pour des raisons diverses. Une autre approche durable est le phénomène de journaux spécialisés en bande dessinée. Déjà, d'un point de vue matériel, il y a beaucoup de variations entre différentes traditions nationales. Prenons les années 60 comme exemple. En Amérique du Nord, il y avait des comic books mensuels. Au Japon, les mangas, magazines, qui paraissaient surtout à un rythme hebdomadaire. Et en Europe, il y avait beaucoup d'hebdomadaires spécialisés, comme le journal de Tintin. La composition de ces revues était assez différente. Aux États-Unis, on trouvait dans un comic book plutôt une histoire complète, par exemple d'un super-héros. Au Japon, dans les magazines manga, plusieurs genres se côtoyaient. Dans plusieurs pays européens, il y avait des magazines avec différentes séries de bandes dessinées, aussi avec un mélange d'humour et d'aventure. Mais ces revues européennes n'étaient pas aussi épais que les revues japonaises. Dans quelques pays, comme l'Espagne et l'Italie, il y avait des revues dédiées à une seule série. Par exemple, le mensuel Tex en Italie ou l'hebdomadaire El Capitan Trueno en Espagne. Donc, presque dans la plupart des revues de BD au monde, une série ou plusieurs séries faisaient le lien d'un numéro à l'autre. Il y avait aussi des revues sans que les personnages réapparaissaient dans plusieurs numéros, comme les Classic Illustrated. J'ai un âge avancé, j'ai encore eu l'expérience de lire des histoires de bandes dessinées en tranches de quelques pages par semaine dans un hebdomadaire spécialisé. Dans mon cas, c'était l'édition néerlandophone du journal de Tintin. Dans le temps, presque chaque page d'une bande dessinée d'aventure se terminait sur un moment de suspense ou sur une question. Prenons un exemple des années 50. Je n'étais pas encore né, mais... La case finale des trois premières pages de Dan Cooper, Le Triangle Bleu, publié en 1954. La première page se terminait sur une silhouette d'un personnage inconnu qui allait agir, comme le texte explicite. Mais on ne sait pas encore ce que ça signifie concrètement. La deuxième page se terminait avec les sirènes d'alarme de cette base militaire. Pourquoi cette alarme ? La troisième terminait sur une exclamation d'urgence par quelqu'un dans le hors-champ. Chaque fois, un petit mystère stimulait le lecteur de se demander comment l'histoire allait se continuer. de se livrer à un pronostic. Pour chaque histoire interrompue, le lecteur pouvait imaginer pendant une semaine une suite hypothétique. Par cette manière de publier des bandes dessinées, l'imagination du lecteur était bien provoquée. La curiosité du lecteur faisait qu'il sentait un besoin de lire le prochain numéro du journal, en termes économiques, de dépenser une somme d'argent. Ce système a fonctionné bien pour quelques décennies, mais après un certain temps, dans les années 70, l'édition des histoires de bandes dessinées en album devenait plus profitable pour les éditeurs que de publier des hebdomadaires. Ce graphique montre le nombre de revues comparées au nombre d'albums néerlandophones entre 1945 et 1998. On constate une progression de la publication en album, surtout dans les années 70 et 90, et une régression des revues, hein, la ligne pointillée, depuis les années 70. Le marché le plus développé des revues de bande dessinée se trouve au Japon. Mais même là, on voit depuis plus de 15 ans une régression continue de la vente des revues manga. Il est clair que le jeu d'anticipation ne peut pas jouer de la même manière en lisant un album, parce que le lecteur peut toujours lire la suite, donc il n'a pas le même temps pour laisser travailler sa propre imagination. Un album de 46 pages de BD offre par conséquent une autre expérience de lecture. Il y a peu de lecteurs qui ont une haute discipline d'arrêter la lecture après un petit fragment, hein, une ou deux pages, et continuer plus tard. Mais il y a 50 ans, il n'y avait pas beaucoup d'autres alternatives pour les lecteurs des hebdomadaires. Bien sûr, pas toutes les séries des années 50 ou 60 étaient captivantes, et peut-être pas tous les jeunes lecteurs se livraient à ce jeu d'imagination. Mais avec la régression des revues de la BD, on a perdu largement ce plaisir particulier, ce plaisir d'attente, ce plaisir d'anticipation. Les séries télé, encore, ils utilisent cette stratégie. Si on considère les hit-parades des 10 meilleures ventes de l'année passée, on constate qu'en plusieurs pays, les meilleures ventes sont des titres qui font part d'une série. En France, c'était les nouveaux albums de Titeuf, Lucky Luke, Largo Winch. En Flandre, des séries de longue date comme The Kikibus ou Bob et Bobette. Au Japon, des séries comme Once, Kuroka's Basketball et Naruto. Pour les États-Unis, je n'ai pas de chiffres globaux pour tout le marché parce que chaque type de distribution a ses propres statistiques. Selon les données du distributeur Diamond, dans le marché direct, c'était Walking Dead et Avengers vs. X-Men qui faisaient une tube. Et selon les données de Bookscan pour la librairie plus générale, des séries comme Dark Diaries ou Big Net étaient très populaires. La sérialisation est donc encore bien vivante en France et en Belgique, mais cette sérialisation d'albums est différente de celle de la presse. Où dans le passé, on devait attendre le prochain numéro d'un hebdomadaire, au présent, on doit attendre le prochain album d'une série. Il est clair que le nombre de pages qu'on peut lire en une fois est plus grande, mais aussi la période d'attente entre les épisodes est plus grande aussi. Dans la BD francophone, normalement, un an. Comparé à certaines d'autres traditions de publication de bande dessinée, le rythme francophone est, en général, assez lent. Les meilleures ventes de bande dessinée flamande sont réalisées par les albums de séries et eux sont produits à un rythme de 4 albums par an, ou environ 180 pages par an. Et nous savons que le rythme au Japon est encore élevé. Une série comme Naruto est publiée à un rythme de 4 tomes par an. Chaque volume contient 10 à 12 chapitres. En somme, chaque année, le fan de Naruto puisse suivre les aventures de son héros sur plus de 800 pages. On pourrait argumenter que le rythme de narration est assez différent entre le Japon et l'Europe. La narration manga est beaucoup plus dilatée. Survolons les avantages du système de publication de séries d'albums. Le fait qu'une série est connue change beaucoup. Une série connue aura une place plus voyante dans les librairies. Les médias de masse seront plus motivés d'en parler, etc. Un éditeur peut mieux estimer le tirage pour un nouveau volume de la série, par conséquent, prendre moins de risques. Les consommateurs connaissent déjà la série et savent ce qu'ils puissent attendre d'un nouveau volume. Remarquable est aussi le niveau de standardisation dans la production. Les éditeurs standardisent non seulement chaque série, mais la plupart de leurs catalogues. Les standards puissent être différents d'un marché à un autre. Le secteur de la distribution et de la vente au détail sont aussi bien servis par cette approche. Par exemple, les étagères à livres puissent être presque uniformes parce que les publications standardisées ont tous plus ou moins le même format. Voyons la régularité dans les librairies de bandes dessinées aux États-Unis, France et le Japon. Même quand les grands éditeurs vont publier des one-shots, ils vont le faire souvent dans une collection standardisée comme Air Libre de Dupuis. La production soi-disant alternative n'est pas du tout étrangère à cette formule standardisée. Par exemple aussi, l'association classe ses productions dans des collections différentes. Mais chaque collection a sa propre format standardisé. Ciboulette, éprouvette, éperlute, etc. Beaucoup de lecteurs et surtout les collectionneurs apprécient cette façon de standardiser la production. Le système ancien de publication francophone avec seulement un album par an ou environ 46 pages par an ne semble plus adapté aux consommateurs contemporains. Ce n'est pas des statistiques, mais il semble que les lecteurs préfèrent maintenant de lire la bande dessinée en plus grande quantité ou plus régulièrement. Voir le succès des mangas traduits avec 4 volumes par an. On peut comparer la bande dessinée aussi avec la consommation des séries télé. Avant la vidéocassette ou le disque numérique, un spectateur devait entendre le moment précis qu'un épisode était diffusé par une chaîne de télévision. Le consommant n'avait pas d'autre possibilité que de suivre le rythme imposé par le producteur ou diffuseur. On devait attendre la suivante émission d'une série, on devait attendre le suivant numéro du journal Spirou ou Pif. La distribution légale ou illégale n'était aussi globale qu'aujourd'hui. Maintenant, on peut télécharger des épisodes de séries que les chaînes de télévision de certains pays n'ont pas encore programmées. De même pour des séries de manga. Hein. On a parlé du Scantrat. Le Scantrat offre des volumes qui ne sont pas encore disponibles sur le marché de traduction. Le phénomène des beuveries des séries peut être encore marginal, mais bon nombre de consommateurs de fiction ont changé leur manière de voir ou lire des séries. Des jeunes gens organisent des beuveries de fiction où on voit plusieurs épisodes d'une série en une soirée ou toute une série en quelques jours. Il y a aussi des lecteurs de bande dessinée qui lisent plusieurs albums d'une même série en quelques heures. Il est clair qu'on peut se mémoriser mieux les éléments narratifs si on voit ou lit les épisodes immédiatement l'un après l'autre. Si un lecteur de bande dessinée doit attendre une année, il fallait parfois relire l'album précédent avant de pouvoir entamer le nouveau volume. Le lecteur de BD francophone doit avoir beaucoup de patience. Par exemple, pour le premier cycle de 13, le lecteur a dû attendre 23 ans pour lire l'intégralité de l'histoire. Il est clair que le problème se pose davantage pour les séries avec une histoire contenue avec dénouement final. Ceci explique pourquoi la bande dessinée optait pour des séries d'histoires autonomes avec les mêmes personnages. Les épisodes pouvaient être lus indépendamment. Leur chronologie interne importait peu. Les événements dans une histoire avaient peu de conséquences pour les histoires suivantes. La plupart des séries donnaient encore l'idée de la pérennité des personnages. Pensons à Tintin, Alix, Spirou, Bob et Bobette. Chaque histoire était un nouvel début. Aujourd'hui, les consommateurs de fiction sérielle sont gâtés par les possibilités de trouver d'autres séries en plus grande quantité. Et pour eux, avoir seulement 46 ou 60 pages d'une série par an ne suffit plus. Les éditeurs francophones se sont conscients de l'appétit des lecteurs, mais ils sont en train de chercher des réponses à cette demande. Une solution est la création de séries parallèles d'une série populaire avec d'autres auteurs. Cette année, on a vu 4 nouveaux albums liés au monde de Thorgal. Il y avait le numéro 34 de la série principale et on a sorti un titre de chaque série parallèle, Crise de Valnor, Louvre, La Genèse de Thorgal. Il est clair que les auteurs de la série principale ne pouvaient pas produire tous les autres titres. Il fallait, pour la création de ces 4 albums, 2 scénaristes et 3 dessinateurs. En revanche, les éditeurs doivent empêcher qu'un consommateur ne sait suivre plus mentalement ou économiquement. On peut avoir un plat préféré, mais ça ne veut pas dire qu'on veut le manger tous les jours. C'est un exercice de balance pour les producteurs. Comment satisfaire le grand appétit du consommateur sans provoquer une digestion ou un malaise dans le porte-monnaie? Et aussi, comment réussir à garantir une qualité minimale attendue par le consommateur? Nous pouvons conclure que la sérialisation est un phénomène adaptif parce qu'elle s'actualise différemment dans les marchés différents et dans les périodes différentes. Dans chaque pays, avec une importante production de bandes dessinées, des systèmes de sérialisation se sont développés et l'objectif majeur était de rendre les consommateurs fidèles, donc des consommateurs qui font des investissements des producteurs rentables. Ainsi, tout le monde est content. Merci pour votre attention.